La revue de presse internationale.
Bonjour Thomas Cluzel.
Bonjour Guillaume.
Ce matin, en quoi la rencontre hier entre Benjamin Netanyahou et Donald Trump marque-t-elle une vraie rupture ?
Eh bien, après 8 années de relations exécrables avec l'administration précédente, c'est peu de dire que la visite de Benjamin Netanyahou hier à Washington s'annonçait tout d'abord sous de meilleurs auspices. Déjà, on savait que Melania, qui vit encore à New York, ferait spécialement le déplacement jusqu'à la Maison Blanche pour être aux côtés de son mari au moment d'accueillir le Premier ministre israélien et sa femme. Le tapis rouge serait par ailleurs déroulé. Bref, ce 15 février 2017, l'alliance israélo-américaine allait enfin sortir de l'ère glaciaire où l'avait plongé Barack Obama. Et de ce point de vue, c'est vrai que la rencontre d'hier aura été en tout point conforme à ce que l'on pouvait imaginer. La poignée de main ferme et franche des deux hommes, sourire aux lèvres, les yeux dans les yeux, telle qu'elle s'affiche ce matin dans la presse, à l'instar du Wall Street Journal, est d'ailleurs là pour en témoigner. Mais de là à en conclure que Benjamin Netanyahou a reçu hier le statut qu'il attendait depuis 8 ans, comprenait redevenir le chouchou de la Maison Blanche, ainsi que l'écrit une chroniqueuse du quotidien Yehudiot Aharonot. Il y a toutefois un pas que les ambiguïtés du président américain ne permettent pas de franchir aussi aisément. Certes, en accueillant son ami Bibi, le nouveau président n'a pas hésité à vanter les liens indestructibles des États-Unis avec Israël. C'est vrai aussi, et c'est là une victoire importante aux yeux de l'entourage du Premier ministre israélien, note le temps que près d'un mois après son entrée en fonction, le chef de l'exécutif américain n'a toujours pas, contrairement à ses prédécesseurs, invité le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas à le rencontrer. En revanche, hier, Donald Trump est resté plutôt évasif en réalité sur la façon dont il entendait procéder sur un dossier sur lequel tous ses prédécesseurs ont échoué. Par ailleurs, il a appelé l'État hébreu à la retenue sur la poursuite de la colonisation dans les territoires palestiniens. Vendredi dernier, déjà dans un journal israélien, le président américain avait prévenu que l'expansion des colonies n'était, je cite, pas bonne pour la paix. Ce qui constitue tout de même une forme de revirement spectaculaire par rapport à ses propos de campagne. Une volte-face, écrite à nouveau le quotidien Yehudiot Aharonot, repérée par le Courrier international, qui s'expliquerait notamment par un entretien entre Trump et le roi Abdallah de Jordanie. En clair, déclarer inopportune la construction de colonies sauvages au cœur de la Cisjordanie serait le prix à payer pour renforcer l'axe sunnite face à une république islamique d'Iran qui aspire à redevenir une puissance régionale de premier plan. D'où cette question, toujours soulevée par le quotidien. La droite israélienne a-t-elle trop vite sabré le champagne après l'élection de Trump? En réalité, ce que tous les faucons du gouvernement israélien, mais aussi la base du Likoud, espéraient de cette première rencontre officielle entre Netanyahou et Trump à la Maison Blanche, c'était que leur premier ministre profite de l'impact médiatique de cet événement pour proclamer la mort des accords de paix d'Oslo. Et de ce point de vue, on peut dire que leurs vœux ont été en partie exaucés, puisque de manière aussi lapidaire qu'un tweet, Donald Trump a déclaré « la solution à deux États n'est pas la seule possible ». Et en ce sens, Trump marque donc une vraie rupture dans la politique américaine au Proche-Orient. Plus précisément, la victoire la plus significative aux yeux des dirigeants de l'État hébreu réside dans la déclaration du porte-parole de la Maison-Blanche, Sean Spicer, selon laquelle, je cite, « la paix est l'objectif, que ce soit sous la forme d'une solution à deux États, si c'est ce que veulent les partis, ou de quelque chose d'autre, si elles le veulent également ». En clair, cela signifie que contrairement à Bill Clinton, à George Bush et à Barack Obama, le nouveau président n'exprime plutôt aucune préférence entre une solution de paix prévoyant un ou deux États. Ou pour le dire autrement, qu'il ne s'accroche pas à la solution prévoyant deux États vivant pacifiquement côte à côte. Une solution, rappelons-le, soutenue par la quasi-totalité de la communauté internationale.
Bon, très bien Thomas, mais alors combien même cette solution à deux États serait officiellement enterrée, par quoi par exemple pourrait-elle être remplacée?
Eh bien, par un dispositif prévoyant un État binational, Israël, s'étendant de la Méditerranée au Jourdain et englobant en plus des 8 millions d'Israéliens, les 2,5 millions de Palestiniens de Cisjordanie. Les faucons du gouvernement israélien rêvent en effet de voir leur pays annexer 62% de la Cisjordanie, c'est-à-dire les zones dans lesquelles se trouvent les grands blocs de colonies, y compris les dizaines de milliers de Palestiniens des alentours, lesquels bénéficieraient de tous les droits sociaux accordés aux ressortissants de l'État hébreu, mais pas des droits politiques, ce qui signifie qu'ils ne pourraient pas voter, ni exercer des fonctions électives et qu'ils n'auraient pas accès par ailleurs aux autres fonctions administratives, aux postes de commandement de l'armée ou aux fonctions à responsabilité dans les services de sécurité. Alors cette solution est-elle envisageable? Interroge à nouveau le temps, en tout cas pas du point de vue de l'autorité palestinienne. Croire que nous pourrions accepter d'être considérés comme des citoyens de seconde zone dans un État où nous n'aurions rien à dire est ridicule, a notamment asséné l'un des hommes forts du Fatah de Cisjordanie. Comment ne pas voir qu'un État binational nationale instaurerait un régime d'apartheid qui ne dirait pas son nom, interroge pour sa part un député progressiste israélien dans les colonnes du Temps. Pour le quotidien Al-Watan, l'affaire est déjà entendue, galvanisée par l'arrivée au pouvoir de Trump. Plus rien n'arrêtera aujourd'hui Israël. Même analyse pour The Irish Times. Sans une égalité potentielle entre deux États, israélien et palestinien, tout accord de paix paraît quasi impossible. Dès lors, deux conclusions s'imposent. La première, selon le quotidien Yediot Aharonot, c'est que les présidents vont et viennent, mais dans le conflit israélo-palestinien, il n'y a rien de neuf sous le soleil et encore moins de solution magique. Et la seconde, c'est qu'à l'issue de la rencontre hier entre Bibi et Donald, la perspective de la création d'un État palestinien qui coexisterait avec Israël paraît de plus en plus inaccessible.
Merci beaucoup Thomas Cluzel.